Radio, un disque, un micro, la radio qui n'a qu'un disque et qu'un micro. Nous sommes en direct du bar du Grand Hôtel à Bayonne. L'émission Bonne Aventure va maintenant démarrer dans 3 minutes, 19h57 à la pendule de Radio Frac. Nos invités viennent juste d'arriver, Arnaud Labelle-Rojou, Xavier Boussiron, Hervé Legros sont là. Ils étaient heureusement équipés d'une borne Wi-Fi, ils ont entendu notre appel depuis le bar du marché et nous ont rejoints. Une émission donc spéciale en Wi-Fi. Je vous disais tout à l'heure, un changement de carte Wi-Fi au bout d'une heure. Erreur, c'est une carte d'accès Wi-Fi. Donc il y aura une coupure Wi-Fi dans à peu près 40 minutes, me dit-on. Bon, tout va bien. L'émission Bonne Aventure ne va pas tarder à démarrer. Vous êtes à l'écoute de radio, un disque, un micro. On écoute en attendant peut-être un morceau pour patienter. Eh bien, écoutons Nana Mouskouri, Soleil, Soleil. Radio, un disque, un micro, la radio qui n'a qu'un disque et qu'un micro. L'émission Bonne Aventure va maintenant démarrer dans une minute ou deux, ça ne serait tardé. On se termine avec Nana Mouskouri, Soleil, Soleil. Je vous rappelle que l'émission est entièrement réalisée grâce au Wi-Fi, l'internet sans fil. Je vous rappelle également donc qu'il y aura une coupure Wi-Fi dans à peu près 42 minutes. Ne vous inquiétez pas, c'est le changement de la carte d'accès Wi-Fi qui nous impose cette petite coupure qui sera de très brève, de quelques secondes. Donc je vous invite à ne pas quitter à ce moment-là. Il est 20h pile à la pendule de Radio Frac. Le plateau est en place, les invités sont là. On se retrouve dans 15 jours pour Radio, un disque, un micro. Place à Bonne Aventure. Bonsoir.
Dans la chaleur d'une nuit de juin, ils seront 5. Et vous, vous serez des milliers à venir partager l'événement de l'année.
Vous avez vu que j'ai pris l'adresse du site internet que vous venez de lancer. Je le redonne pour ceux qui ne l'auraient pas vu, www.radiofrac.com. Et j'espère que le site du ministère de la Culture sera aussi branché que le vôtre.
Bonne aventure. Bayonne 2005, les géants de l'angoisse. Retrouvez des invités en vacances, des chroniques à faire peur. Bref, toute l'actualité de cet été. Bonne aventure. L'émission en direct, un mercredi sur deux, de 20h à 21h, sur www.radiofrac.com. Ça vous va?
Les choses à leur place. Un acte en 10 pièces de Xavier Boussiron, Stéphane Coréard, Frédéric Duprat, Arnaud Labelle-Rojou et Hervé Legros. Avec, pour la première fois sur scène et par ordre d'apparition, Georges Mathieu, Urs Lutti, Karl André, Gérard Gazurowski, Olivier Blancart, Bertrand Lavier, Joseph Cossut, Jacques Lizen, Philippe Ramette et Jim Shaw. Bonsoir, vous écoutez radiofrac.com, la radio Cotentige. Comme tous les 15 jours, c'est Bonne Aventure, l'émission en direct et en public, réalisée par nos chroniqueurs habituels, les radiofraqueurs, Cécile, Cyril, Joachim, Stéphane et moi-même. Ce soir, nous sommes en direct du bar du Grand Hôtel de Bayonne, en plein cœur de l'événement artistique C'est l'été, orchestré cette année par le FRAC Aquitaine. Pendant une heure, nous allons tenter de vous faire découvrir l'une des 6 expositions de C'est l'été, Les choses à leur place, une exposition spectacle présentée au Carré Bonnat. Nous accueillons les metteurs en scène, enfin 3 d'entre eux, Xavier Boussiron, artiste musicien, Stéphane Coréard, critique et commissaire, Frédéric Duprat, artiste entrepreneur, Arnaud Labelle-Rejoux, action artiste, et Hervé Legros, directeur du FRAC Aquitaine. Oui, je me suis trompé, malheureusement Stéphane Coréard et Frédéric Duprat étant absents, c'est avec les 3 autres co-auteurs que nous allons nous entretenir jusqu'à 21h. Mais avant, pour démarrer cette 5e émission, retrouvons notre rubrique Bonne Attitude, dans laquelle nous faisons la rencontre du chef cuistot du restaurant bayonnais 3 étoiles Le Cheval Blanc, Monsieur Telechea, qui n'est pas seulement chef, mais aussi mannequin pour le jambon de Bayonne. Waouh, allons-y.
Bonne Attitude. Ça c'est bon là.
Mais c'est bien, en fait, la musique à Bayonne. Je pense que ça marche plus, pas par le talent des gens qui sont là, mais par la configuration de la ville. De chez moi, à chez Marmouillet, en 300 mètres, si on écarte bien la ville, il y a 184 licences 4 et 78 associations dans les remparts fortifiés de Vauban, données gratuitement par la ville, où il y a des bistrots souterrains. Je leur ai dit, mais ça va toujours marcher, les remparts de Vauban, 184 bistrots.
Mais quoi, que pour la fête de la musique.
La musique, 184 et licence 4, comment veux-tu que ça ne marche pas? Les mecs, ils viennent pomper, on l'a compris.
Non, moi j'ai demandé à Vincent qu'il y ait un groupe.
Devant le Carré Bonnat?
Non, sur le perron du musée.
Le problème, il n'y a pas de bistrot dans ce endroit-là, mais ça peut marcher. On est bien la ville, hein. Je suis né dans ce bistrot.
Bien sûr.
Mais avant, il y avait le commissariat devant, en face du perron.
Ouais.
Et bon, il y a le bar du musée au bout, la fille est fatiguée de faire l'amour. Donc, 56 ans, jubilé.
Ce commissariat, il n'existe plus depuis longtemps, quand même.
Non, mais avant, on pouvait jouer de la musique dans le commissariat. C'était populaire comme quartier, parce que les mecs venaient gueuler.
Ouais, ouais.
Au moins, ils pouvaient retomber sur l'orchestre.
Il faisait sauter le commissariat, déjà, souvent.
Non, mais bon, des pipis dessus, quelques cars à l'envers.
C'est pas d'accord, ça peut être scolaire, quand même.
Si, quand même, il a sauté, moi, 2-3 fois.
Non, pas celui qui était dans le quartier de l'Orc, oui.
Ah bon?
Parce que là-bas, c'est nouvelle architecture. Celui-ci, on y était attaché. Vous avez vu la bâtisse en face, elle est belle. Un commissariat là-dedans, on ne peut pas la faire sauter.
Vous parlez de celui en face de la préfecture?
Ah non. Alors, le commissariat central de Bayonne était en face du musée Bonnat avant. Et maintenant, il est à côté du palais de justice.
Il y avait une banque inchopée.
Alors, il n'y avait pas une banque, il y avait le parking de la banque, à côté du carré Bonnat.
Ah ouais.
La banque qui est située en centre-ville, qui a cramé d'ailleurs, je crois, le parking, non?
Ouais.
Radio Casseur, ici.
C'est quoi votre nom?
Telechea.
Ah oui, d'accord.
Alors, je suis l'élégance suprême, je suis le mannequin du jambon de Bayonne.
Ah, vous êtes intronisé,
vous? Ah, attention.
Non, carrément, campagne de presse avec les bras croisés. Ah, je vous le montre.
Ah, bah oui. Alors, ça, c'est jambon, et ça, c'est sel. Alors, je me demande si c'est mes avant-bras.
Les photomontages à Paris.
Photoshop.
Alors ça, c'est une campagne de presse qui est passée sur Femme Actuelle, enfin plein de magazines. Et la Chistera, je l'ai pas. Ils m'ont foutu un oreiller parce que la Chistera rentrait pas. Et après, avec une bécane, ils...
Ah ouais, ils l'ont inclus.
On a fait ça à Paris, hein.
Ah d'accord.
Avec un oreiller.
Avec un oreiller parce que la Chistera était trop grande.
C'est beau. Ça c'est balèze quand même. Hein.
256 clichés le mec. Là.
Bonne attitude. Ça c'est bon là.
En direct du bar du Grand Hôtel, c'est Bonne Aventure. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes avec Xavier Boussiron, Hervé Legros et Arnaud Labelle-Rojou. Alors bonsoir à tous les trois. Ce soir, les choses à leur place. Une exposition spectacle d'œuvre, une mise en scène commune. Hervé Legros, au lieu de jouer avec l'appareil photo, Hervé, allô ? Prenez un micro. Hervé, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par vous. Alors, quand ce projet est-il né ? Et comment un directeur du FRAC, trois artistes et un commissaire se retrouvent-ils à Bayonne, au Carré Bonnat, à présenter cette expo ?
Ça, c'est la faute de la ville de Bayonne qui nous a invités à faire ce projet. Donc, c'est l'été. Et effectivement, moi, j'ai demandé à un certain nombre d'artistes avec lesquels on travaille depuis un petit peu de temps de m'accompagner dans cette aventure. Sur une proposition qui consistait à choisir des œuvres dans la collection du FRAC, et pas seulement du FRAC Aquitaine, mais des quatre FRAC du Grand Sud-Ouest, donc Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Aquitaine, pour ensuite les mettre en scène d'une manière un peu particulière. Et donc on a cherché tous ensemble. Donc ces gens ne sont pas aussi n'importe qui, ce sont des gens qui sont très proches du FRAC, avec lesquels on développe aujourd'hui un projet, on va dire, artistique qui va durer quelques temps, quelques projets, en fait, voilà.
Alors, je me tourne vers les autres, les deux autres présents. Arnaud Labelle-Rojou et Xavier Boussiron. C'est une exposition, voire une œuvre collective. Comment vous inscrivez-vous dans ce projet ? Auteur, artiste ?
Artiste. Bon, je parle pas pour les autres, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était un petit peu dit par Hervé, mais au départ, la proposition tourne autour d'un projet spécifique à l'intérieur d'un ensemble de projets. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les œuvres qui sont montrées, en dehors du fait que ce soit quatre FRAC, c'est ça, quatre, c'est ça, sont montrées aussi dans la ville, sont montrées dans le musée Bonnat. Nous, l'idée, c'était d'investir le carré Bonnat et de faire quelque chose qui soit plutôt de l'ordre événementiel. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose de l'ordre événementiel à partir d'œuvres. Donc, dans la mesure où, par ailleurs, nous travaillons aussi sur cette question de l'événement, il nous a semblé que la forme pouvait être quelque chose entre ce qui a été dit à l'instant, le spectacle, la présentation publique et la présentation d'œuvres. Donc d'essayer de trouver une forme singulière qui soit à la fois de l'ordre de l'événement, c'est quelque chose qui se déroule pendant tout l'été précisément. Il y a un renouvellement, je ne sais pas si ça, on va pouvoir en parler dans 5 minutes. C'est-à-dire que l'événement n'est pas une exposition statique, hein, c'est une exposition en mouvement qui a des temps donnés, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont présentées de façon successive sur une scène, donc quelque chose qui n'est pas normalement le lieu de présentation des œuvres d'art, avec pour chacune des œuvres un éclairage spécifique et éventuellement une bande son qui l'accompagne. On reviendra tout à l'heure dessus sur cette scène, expliquer ce que c'est, mais c'est-à-dire donc quelque chose qui est de l'ordre du spectacle et en même temps qui est de l'ordre de la durée, puisque ça dure tout l'été. Les œuvres sont présentées pendant un temps donné et donc qui crée un temps qui est particulier par rapport à la vision ou à la présentation d'œuvres d'art. Donc on est dans l'événementiel en même temps qu'on est dans l'exposition. Hein, c'est quelque chose d'entre les deux. Et la raison en est que, en effet, aussi bien Xavier que moi, mais aussi Frédéric Duprat, on a un type de travail qui interroge la question de l'événementiel.
Et vous, Xavier Boussiron ? Dites-nous tout.
C'est pas une question, ça.
Ben, vous aussi, comment vous saisissez-vous de cette exposition ?
Non, mais moi je m'en
saisis.
Moi je m'en saisis pas parce que on est
tissu depuis le départ. Donc, non, c'est juste revenir un peu sur les origines, enfin, sur la généalogie de cette affaire. C'est que, en effet, Hervé nous a proposé à l'origine à Arnaud et moi de réfléchir à un projet qui soit envisageable à long terme, comme il le disait, et qui aurait une sorte d'appellation générique qui est la passion triste. Et on peut imaginer que la passion triste, avec toutes les incidences contradictoires que ça insinue, nécessite quand même un certain type de feuilleton et de chapitre pour pouvoir bien faire le tour du sujet. Et les choses à leur place, c'est le démarrage de cette expérience sur les passions tristes. Voilà.
Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, David Bowie, Van Halen, Madonna, Huey Lewis and the News, The Cars, Herbie Hancock, Bonnie Tyler, Stevie Nicks, Men at Work, ZZ Top, Paul McCartney and Michael Jackson, Weird Al Yankovic, Cindy Lauper, Pink Floyd, The Pretenders, Billy Joel, Billy Idol, Elton John, Neil Young, Sheena Easton, Patti Smith and Scandal, Fashion, Big Country, Morris Day and the Sign, John Lennon, Apollonia 6, REO Speedwagon, David Gilmour, The Rolling Stones, Pat Benatar, Hall & Oates, Wham, Rebby Jackson, Adam Ant, Bananarama, Christine McVie, Queen, Jack Cougar Mellencamp, U2, Sirens, Fleetwood Mac, The Alan Parsons Project, Rick Springfield, The Thompson Twins, Missing Persons, Duran Duran, Bleak, Eurythmics, Culture Club, including Boy George, Band-Aid, Relax, Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, David Bowie, Van Halen, Madonna, Huey Lewis and the News, The Cars, Herbie Hancock, Bonnie Tyler, Stevie Nicks.
Radio Frac.
Radiofrac.com, la radio aux couleurs du Pays Basque. C'est Bonne Aventure, spécial Les choses à leur place. Exposition présentée au Carré Bona à Bayonne. Nous sommes toujours avec les co-commissaires auteurs de cette exposition. Arnaud Labelle-Rejoux, Xavier Boussiron et Hervé Legros. Alors, est-ce que l'un de vous peut revenir pour le public et les auditeurs qui n'ont pas vu Les choses à leur place sur le dispositif de cette exposition?
Allez, je m'y...
Hervé?
Bon, le dispositif, il est assez simple. C'est une scène qui est... D'abord, le Carré Bona est un espace tout en longueur, tout en profondeur, en fait, qui ouvre sur une vitrine, sur la rue Frédéric Bastiat. Et il fait à peu près 17 mètres de long. Et au travers de ces 17 mètres, on a mis un dispositif qui est assez simple, qui replace une scène, une sorte d'estrade, en fait, assez sommaire. Sur le côté gauche de cette estrade, il y a une construction qui fait une sorte d'arche dans laquelle on peut passer. Et il y a une arrière-scène dans laquelle un certain nombre d'éléments sont disposés, qui sont en fait les éléments qui constituent les œuvres qui vont passer sur cette scène au fil des 3 mois d'exposition. Donc cette scène ensuite a une particularité, c'est que sur sa partie gauche, aux 3/4 à peu près de la scène, un poteau est situé là. Alors pour l'occasion, c'est un faux poteau qui se trouve sur la moquette en fait de la scène, du plateau de scène. Et l'ensemble du dispositif n'a pas été créé comme ça de toute pièce, c'est simplement la copie ou du moins l'interprétation d'une scène qui existe déjà à Bayonne et qui se situe au centre culturel et récréatif espagnol, sur la rive droite, en fait, derrière la Talente, le cinéma, et sur laquelle, justement, sur cette scène-là qui existe réellement et qui sert vraiment de scène, se joue un certain nombre de spectacles très divers dans ce centre culturel espagnol et qu'on va justement occuper pour une sorte de soirée finale des Géants de l'Angoisse le 17 septembre prochain, samedi 17 septembre à partir de 20h. L'entrée est gratuite et il y aura là pour le coup une mise en scène d'un spectacle sur les passions tristes.
Alors actuellement,
ça c'est le dispositif, excuse-moi. Mais quelle était l'idée en fait de des choses à leur place en mettant cette scène, ces œuvres sur une scène, oui, un acte, 10 pièces.
Oui, enfin, je reviens moi un tout petit peu sur la chronologie aussi de la rencontre, on va dire, la rencontre avec la scène, j'entends. On cherchait au départ à indexer l'événement à Bayonne. Donc on a commencé à réfléchir, on n'est pas parti avec des idées toutes faites, on a commencé à réfléchir sur ce qui pourrait à un moment donné donner une tonalité liée à Bayonne, mais sans être illustrative de quoi que ce soit. C'est-à-dire on n'avait pas spécialement travaillé sur le jambon de Bayonne ou sur le béret basque, mais on s'est dit il faut qu'on réfléchisse sur quelque chose qui appartienne en propre à Bayonne, qui parle de Bayonne, mais qui en parle de façon périphérique comme ça. Donc on a pas mal réfléchi et on s'est on a cherché, on a des contacts ou des informations concernant des lieux, des références bayonnaises. Et Vincent Ducouron nous a parlé de ce club récréatif, culturel et récréatif espagnol. Donc nous nous y sommes rendus, on a pris un verre ou deux là-bas et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de reprendre cette idée de récréation d'une certaine manière ou de culte et de culture à partir de l'idée de plateau, de scène. Donc on a simplement transposé la scène comme on l'a dit tout à l'heure presque à l'identique hein, en jouant sur cette idée de spectacle, mais un spectacle qui serait à la fois muet mais qui parle aussi de présence forte culturelle mais pas espagnol en l'occurrence, mais artistique. Donc, et à partir donc d'œuvres qui existent dans les différentes collections du FRAC, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'était jouer sur cette question de la présence en tant que spectacle. Voilà. Donc, du spectacle à partir de l'idée de scène, mais aussi de la présence à partir d'œuvres qui a priori sont quelque chose de mort, puisque c'est pas des présences physiques de personnes vivantes. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, quand on dit les choses à leur place, évidemment, c'est assez ironique, puisque ces choses sont placées, en effet, définies, et en même temps, il s'agit de proposer à des spectateurs de se projeter, hein, dans le dispositif pour en faire une analyse personnelle, se projeter sur la nature même de l'œuvre, c'est-à-dire que si on commence par Georges Mathieu, c'est à la fois quelque chose d'historiquement daté, qui veut dire quelque chose de l'histoire de l'art, qui veut dire aussi quelque chose de la personnalité de celui qui l'a fait, qui lui-même était un peintre qui faisait des peintures publiques, et donc d'interroger à travers ça aussi bien la question de la théâtralité même de l'œuvre, que de la théâtralité, oui, même de l'histoire de
c'est
l'art.
C'est ça, en disant que les choses sont mises à leur place, en mettant une œuvre sur scène, c'est considérer qu'il y a un potentiel spectaculaire et théâtral qui peut permettre à une œuvre de survivre, hein, sur une scène.
Mais il y a, comme je le disais, quelque chose d'ironique aussi dans la proposition, c'est-à-dire en même temps de dire que peut-être que les choses ne sont pas si évidemment placées. Hein, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire de l'art n'est faite que de espèce de logique comme ça qui est affirmée et les choses ne pourraient plus bouger parce qu'elles sont lisibles à travers l'histoire par exemple. Et il y a des gens qui aujourd'hui peuvent sortir de l'histoire ou rentrer dans l'histoire et nous disons simplement que c'est éventuellement une question d'éclairage et de dispositif tel que on peut le décider nous-mêmes. Donc il y a quelque chose, comme je le dis, d'ironique, parce que on a d'ailleurs vu par rapport à certaines réactions, il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas, que ces choses ne sont précisément pas là, à leur place. Parce que un tableau de Mathieu n'a pas sa place, n'a pas de raison d'être, par exemple dans une exposition d'art contemporain, tout simplement.
Il y a des gens qui trouvent aussi le dispositif hermétique, qui ne comprennent pas.
Ça c'est possible, mais
parce que la scène peut opérer aussi une mise à distance de l'œuvre plutôt que de la révéler.
Oui, mais ça c'est présentée face à un public.
Moi je crois pas
ça.
Xavier Bossian.
Moi je crois pas ça. Au contraire, c'est que le potentiel spectaculaire de l'œuvre inhérent à toute œuvre en fait, qui serait une espèce de mise en place de superflu. La scène révèle tout ça. Mais pas à distance, mais je pense que ce qui est ça ce qui est fort devient encore plus fort quand c'est sur scène. Et c'est là où l'ambiguïté se pose par rapport à la mise en place générale. C'est que c'est vrai que les pièces, et c'est comme ça qu'on avait un peu ironiquement aussi imaginé ça, c'est que les pièces à travers ce feuilleton qui se déroule tout l'été se succèdent, et pas selon une espèce d'intrigue narrative précise ou bien psychologique ou autre. Et c'est vrai que ça offre aux œuvres une espèce de caractéristique amplifiée à tous les niveaux. Quoi. Et quand tu mets une peinture sur trépied sur une scène, cette idée, elle est pas neuve. C'est-à-dire que De Chirico y avait déjà pensé. Et c'est vrai que il y a un phénomène d'amplification très très curieux.
Mais beaucoup de gens, par ailleurs, c'est ce que je pense vouloir dire, Cécile, sont passés à côté de cette amplification dont vous parlez.
Ah ouais, mais ça, c'est pas notre problème, ça. C'est leur problème à eux. Ça, c'est, tu vois, ça, si on commence à parler du public, c'est une grande difficulté, tu vois, parce que c'est vrai que on peut pas être dans un, on peut pas avoir une espèce d'instinct paranoïaque absolu à se dire que le public va cerner immédiatement ce qui se passe. C'est-à-dire que même quand on parlait d'hermétisme,
non, mais qu'il n'arrive
moi
pas,
je suis je pense que j'ai été élevé à l'hermétisme, tu vois, et l'art c'est aussi un domaine assez hermétique. Et ce que disait Arnaud tout à l'heure par rapport à l'histoire de l'art, c'est que, ou l'histoire en général, mais parlons de l'art, c'est vrai que l'histoire tendrait à donner au-delà des définitions, mais des espèces de logiques qui permettraient d'assimiler beaucoup plus facilement ce qui est peut-être parfois illogique, complexe, absolument pas raisonnable, bordélique, honteux, négatif. Et ça, c'est l'art. Et c'est pour ça, cet hermétisme, ça peut pas. Je crois pas que ce soit une. C'est pas une volonté, mais c'est pas un problème non plus.
Non, c'est pas un problème, mais c'est pas hermétique en plus. Au sens propre, c'est pas hermétique. Ce n'est pas hermétique, c'est une.
Que la mise à nu par l'artifice, c'est-à-dire ce que vous proposez, ces œuvres qui circulent et qui se succèdent sur scène, oui. Cette dramaturgie, cette sacralisation, cette théâtralisation.
Elle interroge tout ça. Ce sont des questionnements qui sont présentés.
On sacralise rien, là.
C'est quelque chose qu'on peut être en droit de ne pas être
oui,
capable
mais
de dépasser.
Pas de l'hermétisme. Ce n'est pas de l'hermétisme. C'est-à-dire qu'en fait, les choses sont là. C'est pour ça que les choses sont à leur place. Elles se donnent à lire et on les lit ou on ne les lit pas. Mais chacun peut y faire sa lecture, y compris une lecture qui passera à côté, peut-être de notre proposition. Mais elles sont potentiellement toutes là, ces réponses. Parce qu'en effet, lorsque l'on prend la liste des artistes présentés, beaucoup parlent aux gens qui connaissent entre guillemets l'histoire de l'art, mais un certain nombre en même temps, plus que d'autres sans doute, doivent paraître des incongruités. Je pense en ce moment à ce qui est présenté, la perruque, la moumoute art de Dijon, d'Olivier Blancard. Je pense que ça parle pas de la même façon que peut-être le Georges Mathieu, par exemple.
À ce sujet, on va d'ailleurs écouter une description.
Et oui, c'est l'actuelle exposition du moment avec Olivier Blancart et Bertrand Lavier qui est présenté actuellement du 9 au 19 août.
Raison qu'on ne voit pas ce qu'ils vont décider comme tu m'appelles. Radiofrac.com.
Donc la prochaine présentation à partir du 9 août va mettre en scène deux œuvres, l'une de Olivier Blancard, l'autre de Bertrand Lavier. Alors l'œuvre d'Olivier Blancard qui s'appelle La Moumoute de Dijon, La Moumoutarde de Dijon, pardon, et qui est une œuvre de 89 ou 90, je ne me rappelle plus exactement. Et donc cette œuvre consiste en une perruque, donc un postiche, quoi, un postiche avec des cheveux plutôt longs. Qui va être posé sur un socle réalisé à partir d'une tringle métallique d'1 mètre à peu près de haut, donc la perruque posée dessus, et cette perruque est enduite jusqu'à dégouliner de moutarde, donc la moutarde dégoulinant sur la scène. Voilà, c'est simplement ça. Et la deuxième œuvre de Bertrand Lavier, qui s'appelle les Fleetwood, qui est une œuvre du Frac Aquitaine, qui est une œuvre de 85, consiste en deux ailes de Cadillac modèle Fleetwood. Ces deux ailes de Cadillac qui sont posées, on va dire, ces deux ailes arrière de cette voiture qui sont posées face à face mais en opposition, et qui représentent de cette manière comme une sorte d'envergure ou de cerf-volant quelque part, ont la particularité d'avoir été traités avec cette touche particulière qu'avait Lavier à un moment donné, qu'il appelait la touche Van Gogh, c'est-à-dire une touche très empâtée, avec une peinture qui ne touche pas à la peinture, ou du moins au fond de la peinture, donc qui n'est pas colorée, mais qui amène une matière incroyable. Le coup de pinceau est très visible et surjoué sur ces deux éléments de carrosserie. Et donc, on est en face de deux œuvres qui vont être évidemment mises en scène en même temps et sur lesquelles on peut effectivement, où on invite les gens, même pratiquement, je dirais que c'est inévitable, de faire un rapport entre elles. Alors, le rapport peut très bien être fait sur quelque chose d'assez léger, suspendu comme ça, puisque les deux ailes de Cadillac qui normalement sont accrochées au mur, hein, comme peut l'être un tableau ou un relief, quoi, et qui là vont être suspendus en travers de la scène à mi-hauteur, et donc un peu comme en lévitation. Et puis cette perruque ou ce postiche enduit de moutarde, qui est une sorte de boutade, de jeu de mots et en même temps de jeu formel, qui va lui être sur son socle comme ça, mais pareil, suspendu au-dessus un peu du vide et qui va dégouliner. Voilà. Radio Frac.
Voilà, toujours sur Radio Frac, c'était Hervé Legros qui décrivait une œuvre de Olivier Brancart et une autre de Bertrand Lavier qui sont exposées actuellement et jusqu'au 19 août au Carré Bonnin. Alors, à chaque fois une œuvre, et puis là deux, et puis la prochaine fois trois. Là, vous y allez quand même un peu, non?
C'est-à-dire qu'il y a parfois des rencontres, parfois ça nous amuse de jouer sur des registres aussi de spectacles. C'est-à-dire qu'il y a le solo, enfin le monologue, et puis il y a des dialogues, et puis ils peuvent être trois à un moment donné, et puis même à la fin ils seront tous là.
Mais alors c'est l'artiste-acteur ou c'est les œuvres
acteurs? C'est les œuvres qui ont des présences, qui parfois se répondent, parfois non. Parfois elles peuvent peut-être se nuire même, hein, au niveau du sens. À l'instant, on a dit de façon que ça pouvait être, par exemple, vu sur le mode de la liaison sur les, enfin, la question d'une pseudo élévation, hein, je sais pas, mais on pourrait dire aussi sur le recouvrement, hein, puisque les deux sont l'une recouverte de peinture avec la touche Van Gogh, l'autre le recouvrement de la perruque avec la moutarde, sachant par ailleurs que Lavier a fait tout un travail sur la position de deux éléments l'un au-dessus de l'autre et qui forment une espèce de sens non évident d'ailleurs entre les deux éléments qui sont juxtaposés dans des œuvres qui un frigidaire sur un coffre-fort ou juste comme ça. Là, on le confronte lui directement à une autre œuvre. Donc c'est quelque part une espèce de parasitage plus qu'autre chose. C'est pas une et dans l'art ça se fait pas en général, hein, c'est-à-dire qu'on nous on pousse une lecture qui n'est pas une lecture en même temps imposée, parce que chacun peut aussi je sais pas si vous avez vu là aujourd'hui l'accrochage, on a c'est fait en sorte que les deux pièces soient en même temps assez dissociées. Elles sont sur la même scène mais elles sont en même temps assez dissociées. Mais là je voudrais revenir si j'ai l'occasion sur le contenu global. Xavier en a parlé tout à l'heure, la question de la passion triste.
Le manifeste.
Oui, ce manifeste. Ce qu'on essaie de dire globalement quand même derrière ça, à travers en effet ce qui apparaît comme peut-être le premier événement lié à la passion triste, à ce projet qui va durer, qui a eu quand même un espèce de prolégomène, si j'ose dire, lors de l'inauguration du FRAC à Bordeaux, où Xavier et moi avons fait une sorte de petite performance, oui, et qui était, là encore, qui interrogeait la question de l'artiste en tant qu'acteur. Donc je lisais un texte où j'énonçais une espèce de posture de l'artiste en tant qu'il est acteur de son œuvre, mais aussi acteur à travers tout ce qui est de l'ordre de la représentation dans l'art. Il faut lire aussi les choses, si j'ose dire, entre elles. C'est-à-dire que ce manifeste de la passion triste parle quelque part de quelque chose qui est généralement relié au négatif, relié à ce qui est considéré comme des passions qui pourraient nous entraîner vers des qui seraient non porteuses, on va dire, de d'œuvres, mais que nous considérons comme au contraire des postures d'artistes ou des œuvres qui disent des choses du côté peut-être du négatif ou du côté du refoulé, et qui nous paraissent au moins aussi intéressantes que des œuvres dont qui seraient porteuses de valeurs plus positives, entre guillemets. Donc il faut lire aussi le projet de Bayonne avec cette idée en tête.
Manière que vous avez scénarisé cet acte en 10 pièces.
Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas scénarisé de ce point de vue-là. C'est comme comme disposé au compte-goutte, hein, en 10 fois. Cette fois-ci, c'est 10 fois, mais des propositions qui rentrent dans cette réflexion. Il n'y a pas de scénario, non, parce qu'entre la scène d'ouverture et le final, entre guillemets, alors je pense que je laisserai la parole à quelqu'un d'autre pour pas monopoliser la parole, mais interviendra en effet quelque chose qui peut en tout cas faire croire qu'il y a un final, mais en fait il n'y a pas de final possible, hein. C'est en fait ça devrait jamais s'arrêter, cette histoire. Ça devrait être on ouvre et puis ça devrait être un puits sans fond, mais on fait comme ça une sorte de petite clôture, de petit événement. En fait il y a deux finales, si j'ose dire. Il y a un final qui sera ce qu'a annoncé tout à l'heure Hervé, c'est-à-dire
le vendredi 16.
Voilà. C'est le samedi 17, en fait. Samedi 17. On revient dans le Centre culturel espagnol, et là, ce sont des artistes qui seront présents. Et on fait un autre final avec des œuvres autour d'une œuvre emblématique, hein, qui est un tableau qui appartient à l'histoire de l'art, mais d'une façon négative. Hein, puisque c'est un tableau qui était peint par la queue d'un âne, Brunelli, et qui était en fait un scandale de la modernité, et qu'on mettra comme étant une interrogation sur précisément qu'est-ce que c'est que le geste artistique, et qu'est-ce que c'est que la présentation et la présence d'une œuvre. Voilà. Et donc c'est pour dire que les enjeux de tout ça sont peut-être un peu plus complexes que simplement de dire ce sont des tableaux qui sont, ou des œuvres qui sont présentées sur une scène comme s'il s'agissait d'un spectacle. C'est d'interroger toutes les questions liées, pour dire simplement, la vision positive ou négative des choses.
Hervé Legros, vous vouliez intervenir ?
Oui, mais tout ce que dit Arnaud, c'est clair que c'est ça. Mais après, pour revenir sur la question du public, qui peut moins me toucher, justement, plus qu'effectivement Xavier ou Arnaud, c'est vrai que le public a des réactions assez étonnées, ou voire assez atones par rapport à ce genre de dispositif, enfin pour la plupart des gens. Ouais. Mais il n'empêche que les œuvres sont là. Sur une installation qu'ils peuvent eux-mêmes reprendre pour une œuvre ou pour une installation telle quelle, mais ces œuvres sont présentes, sont visibles, et la plupart des gens que moi j'ai pu rencontrer dans ce dispositif, c'est assez clair qu'ils ne voient pas les œuvres, qu'ils voient tout autre chose, qu'ils voient c'est un tableau qui est présenté sur scène, on parle de photographie, donc il y a un problème à la base. Il y a un problème à la base qui ne vient pas du dispositif, il y a un problème à la base qui ne vient pas de l'œuvre en soi, il y a un problème à la base qui vient du regard des gens, je pense, qui n'est plus ou pas assez attentionné à cela. Et ça a été pris en compte par notre dispositif à nous, c'est-à-dire que moi, dans ce dispositif-là, je vois quoi ? Justement, effectivement, une mise en scène qui va surjouer l'œuvre, quelque chose qui ne se fait pas, qui est même à la limite... totalement interdit dans le domaine de l'art. Mettre une œuvre sur une scène de théâtre, c'est la considérer comme un décor de théâtre, et donc la nier en tant qu'œuvre, quelque part. Donc là, on joue ça, on est dans un espace d'art, et normalement, la normalité voudrait que on est dans un espace d'art, donc on voit des choses qui sont liées à l'art, et on va essayer de décrypter un peu ce que l'on voit. Donc ce rapport au public, effectivement, il est problématique, mais à tous les coups, il est problématique, et dans tous les domaines.
Oui, mais par exemple, pour reprendre ce que vient de dire Arnaud Labelle-Rojou à propos de la dernière œuvre, donc qui clôturera les choses à leur place au Caribona, à propos de ce Boronami, quand on est visiteur ou spectateur et qu'on ne connaît pas l'histoire de cette toile, de ce qu'elle justement raconte, et la manière peut-être dont elle peut dialoguer avec... Enfin, j'en sais rien, moi j'y vais en tant que visiteur. La manière dont elle peut dialoguer peut-être avec l'œuvre de Georges Mathieu qui a ouvert l'exposition, moi j'ai l'impression qu'on perd des choses, qu'on perd beaucoup de choses en tant que visiteur. Ouais. Et pourtant c'est passionnant de le savoir, et j'ai l'impression que ça aide peut-être à comprendre ou à essayer de... Oui, de comprendre l'intention, votre intention.
Il n'est pas question de généraliser tout le temps, mais tout dans la vie, on perd des choses tout le temps, quoi. Il faut faire des choix, il faut faire... Donc, je ne sais pas si on est intrigué par un tableau, et cette personne, quand je parle d'un tableau, enfin, qui me parle d'une sculpture...
Coupure Wi-Fi. Ne vous inquiétez pas, c'est le changement de la carte d'accès Wi-Fi qui nous impose cette petite coupure qui sera de très bref, de quelques secondes.
Alors, vous êtes sur radiofrac.com, on s'excuse, on vient de couper la chic à Hervé. Nous avons eu un petit problème de connexion Wi-Fi, on s'en excuse. Voilà, la musique Cotton Tige redémarre. Hervé, on va pas vous reprendre, excusez-nous. Hein.
Je reprenais sur simplement le fait que... mais je sais plus trop ce
qu'on perd des choses, qu'on perd tout le temps des choses.
Mais oui, on perd tout le temps des choses partout. Donc après, c'est une sorte d'intérêt. C'est une sorte d'intérêt qu'il faut avoir sur certaines choses. Et puis c'est tout. À un moment donné, vous êtes en face d'une œuvre, elle vous intrigue, elle vous émeut, et vous avez besoin d'en savoir plus, et donc vous allez aller plus loin et vous allez découvrir des choses, peut-être qu'elle vous, en fait, elle ne vous intéresse absolument pas, ou peut-être qu'elle vous subjugue encore plus que ce que vous croyez. Donc voilà, c'est ce chemin-là qu'il faut pouvoir faire, et c'est ce chemin-là qui est très difficile à faire aujourd'hui, malheureusement, mais on peut pas pallier à tout, quoi, si les gens sont simplement comme ça.
Oui, mais je voulais justement répondre aussi sur ce qu'on en manque, ou ce qu'il manquerait aussi comme clé, entre guillemets, ou comme mode d'emploi. C'est le problème, hein, de toute la question de la présentation de l'art contemporain. Enfin, là, je ne veux pas, à la place d'Hervé, répondre lorsque l'on montre des œuvres, et la question là qui était quand même présente, qui était tout de même, et ça fait partie aussi de l'enjeu, je dirais, de la manifestation. C'est une collection ou des collections qui sont invitées. La question de la collection, la question de choses qui, d'une certaine manière, appartiennent en l'occurrence à la collectivité, c'est une collection publique, mais qui donc sont aussi représentatifs, ces choses, représentatives donc, d'un moment de l'art. Lorsque le visiteur dans un musée, dans un lieu d'art, voit les œuvres d'art, là, évidemment, il peut avoir accès à des petites descriptions, des explications analytiques, voir des extraits critiques, etc. Mais la première chose, c'est que normalement, avant même de lire les commentaires, sont confrontés à une réalité, à une chose présente, qui est l'œuvre, avec ou non sa force. Donc c'est pour ça qu'on parlait de la présence tout à l'heure, avec ou non sa force. Il se trouve qu'avec la modernité artistique, les gestes des artistes ont complexifié le rapport, en effet, du spectateur, du regardeur à l'œuvre, parce que derrière, il y a un rôle, un statut de l'œuvre qui a changé. C'est-à-dire que beaucoup de gens continuent de regarder les œuvres avec une espèce d'a priori qui serait, on n'en est plus là à penser qu'on va voir du beau ou ou quelque chose de strictement décoratif, mais en même temps, et là j'ai regardé tout à l'heure...
si on en est là, justement.
On en est encore un peu là, quand même, mais enfin, il y a une espèce d'attente des œuvres d'art qui font que le public ne retrouve pas quelque chose qu'il connaît. Hein, il ne reconnaît pas la chose, il ne reconnaît pas. Or, cette modernité, elle a bien plus de 100 ans. Hein, et donc, ce qu'on voudrait... Alors, je vais très vite, hein, parce que... Je voudrais juste terminer. Et ces choses existent depuis 100 ans et ont été l'objet à la fois de scandales, de mise au point, de réponses, de succession de mouvements qui énonçaient des choses qui pouvaient être contradictoires mais qui étaient toutes de la modernité, qui étaient toutes une réflexion en soi sur l'art. Et il se trouve que à certains moments, et c'est en effet le cas de Boronali, à certains moments il y a eu des espèces de poussées justement négatives, hein, puisque je le rappelle pour nos auditeurs, comme on dit, l'histoire de Boronali, donc c'est un écrivain qui s'appelle Roland Dorgelès qui était très hostile à la modernité de l'époque, hein, en particulier aux futuristes qui étaient les artistes du moment, et qui donc a inventé un artiste, Boronali, italien, soi-disant italien, qui était excessiviste, hein, qui est de l'école excessiviste. Et donc pour se moquer simultanément donc de la modernité artistique et des futuristes, invente donc un artiste qui produit une œuvre avec donc un âne qui avec sa queue peint ce tableau. La chose intéressante, c'est que en effet ce tableau est un véritable scandale pour parce que le tableau est, on ne dit qu'après l'événement qu'il s'agit d'un tableau fait par un âne et donc jette sur toute la modernité du moment, une espèce de trouble, en disant ouais, c'est tous des branques, c'est tous des nuls, ça vaut un tableau de peint par un âne. Sauf que, alors ça c'est effectivement une espèce de lecture poujadiste, hein, qu'on pourrait faire de ces textes artistiques. Sauf que en même temps, ce tableau lui-même s'inscrit dans l'histoire de l'art, existe, il se trouve qu'on l'a retrouvé, entre guillemets, et existe et pose la question, justement, de la, quelque part, de la croyance en l'art ou en croyance en le geste artistique, etc. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est sans commentaire superfétatoire, donc c'est pour ça que nous, on ne cherche pas à énoncer tout ça, remettre en scène ce tableau, un siècle après que l'on présente aussi ces différents gestes de la modernité artistique. Est-ce que ça vient comme un, si j'ose dire, un âne dans un jeu de quilles, ou est-ce qu'au contraire, ça nous montre que tout ça, c'est du passé, ça n'a aucun sens, etc. À lire le livre d'or du musée Bonnat, je ne sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil, on comprend que les choses ont guère changé.
Et à lire également Libération, il y a quelques jours aussi, non?
Enfin, moi, je sais pas si je trouve ça formidable de voir qu'un critique croit faire de l'humour ou de l'esprit en disant d'un des artistes majeurs qui s'appelle Carl André du minimalisme qu'il met trois bouts de bois par terre et qu'il a été suspecté donc de la mort de sa femme et acquitté. Je trouve que c'est assez lamentable comme regard sur l'art de...
Et voilà quelqu'un qui est quand même complètement passé à côté de...
Oui, totalement passé à côté, ouais, parce qu'il avait un a priori.
C'est son métier aussi.
Comment?
Enfin, moi, je ne vois pas comment
c'est son métier.
De passer à côté? Ouais, son métier de passer à côté?
On s'étonne même plus des papiers de Gauville, tu vois. C'est vraiment pas pour lui mettre une casserole au cul, mais... C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la tradition de la critique, en plus de la critique actuelle, mais où tout est... C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de sa propre colère. Hein. Il n'en a pas les moyens psychologiques. C'est-à-dire qu'il rend l'exposition assez intéressante. Les rares personnes qui ont lu le papier ont envie de voir l'exposition. Et je pense que son objectif de base n'était pas celui-là. Parce qu'il a vraiment des problèmes stylistiques. Enfin, c'est un... Voilà, il est...
Sans compter que lorsque l'on dit dans le même papier « on se croirait dans les séminaires de Lacan on ne comprend rien », alors il peut penser effectivement que Lacan est un charlatan, mais je pense qu'il est pas au dixième de la pensée de Lacan tout de même, au centième, au millième même. Donc je pense qu'il se pisse lui-même dessus, donc ça n'a aucun intérêt.
Par contre, il dit un truc dans le papier qui aurait pu être intéressant s'il avait réfléchi dessus, c'est qu'au bout de la troisième ligne, je sais plus exactement, mais très vite, il se met à parler d'animation. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où l'art devient, après la fête de la bouse, les joutes de Sète et la cargola dans Catalogne, on utilise de l'art contemporain pour justifier toute la politique touristique et qu'il faut occuper les campeurs et tout ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça joint deux terrains assez improbables au niveau de la rencontre qui serait une volonté folkloriste, comme ça, et une occupation des sols par de la culture de pointe. Et en l'occurrence, l'art fait partie de la culture de pointe, parce qu'on pense que c'est seulement beau. Ils mettent dans les cahiers le public, dit rendez-nous notre bona, quoi. C'est ça, tu vois, c'est-à-dire rendez-nous notre beauté et ne nous remettez pas notre nez dans notre propre déception. Et c'est ça le rapport au public, tu vois. Et être spectateur, c'est un vrai boulot, quoi. T'es pas là pour venir t'enfiler quelque chose que tu t'ingurgites en 5 minutes. Et c'est je pense qu'il aurait pu parler de ça. Il aurait pu parler de ça. Et puis je pense qu'Hervé peut en parler aussi, parce que je pense qu'il y a le problème à la fois de la politique culturelle et de ce qu'on montre et de ce qu'est la culture, le patrimoine et l'art. Et ça pose des problèmes de regard, des problèmes de lecture, et puis peut-être après que ça pose des problèmes politiques, des problèmes où on n'est pas là pour s'entendre, et que les cas de divorce sont permanents dans ce genre de secteur, quoi. Notamment entre les artistes et le public. Et c'est pas une volonté, c'est pas une espèce d'anticipation et un but, quoi. Le but, c'est pas d'épater le bourgeois ou je sais pas quoi. C'est qu'il y a une vraie. Ça rejoint ce que disait Arnaud, c'est qu'il y a un vrai vieux problème là-dessus et qui, à mon avis, doit peut-être avoir 3000 ans. Je suis sûr que le premier mec qui a décidé dans les grottes de Lascaux, il a dû avoir un copain qui est rentré avec une peau d'ours en lui disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? On avait une caverne impeccable pour dormir en famille, tu viens nous faire ton espèce de bison. Je suis sûr qu'à l'époque, ils se sont dit ça dans leur langage, avec leur code. Et parce que ça se finit à coup de massue. Et c'est la guerre, quoi. Quand je dis la guerre, une petite guerre douce, bien sûr. Et c'est la guerre. On n'est pas là pour remplir les auges et que tout le monde soit bordé de la même manière. C'est malheureux, mais c'est un peu la difficulté de la vie, quoi, qui ressort de tout ça, quoi.
Hervé, vous vouliez rajouter
Allez, Hervé.
Non, mais sur Gauville, rien, non, merci. Mais sur le fait de l'animation, effectivement, ce projet, faut être clair, et on ne se l'est pas caché, personne ne se le cache ici. Rien que le titre, c'est l'été. C'est vrai que c'est un titre assez ridicule, assez tautologique, mais qui dit bien ce qui y est. C'est-à-dire qu'il faut, pendant cet été, trouver quelque chose à faire, à s'occuper, à voir, à visiter, à consommer. Bon, donc on n'est pas pour critiquer ça, puisque c'est là, ça existe, c'est comme ça, et puis ça sera pas autrement. Et je pense que ça va aller qu'en empirant. Mais à côté de ça, on peut quand même poser le problème de cette animation, et puis justement la renvoyer à ceux qui la demandent. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire dans la totalité du projet, au-delà des expositions présentées au musée et au carré, en essayant d'y mettre un peu plus de corps. Voilà. Donc Gauville, effectivement, est passé à côté de ça. C'est pas grave. Il vient généralement voir sa mère ici, donc c'est accessoire.
Et en même temps, excuse-moi, je te coupe, mais il y a des. Je pense qu'il y a une partie des gens qui sont ravis de regarder de l'art contemporain et qui sont pas du tout choqués que ce soit en rapport avec les peintures de Bona. Moi, Bona, je l'aime bien. C'est con, mais je l'aime bien. Non, mais sincèrement, tout comme j'aime beaucoup Mathieu et on s'est engueulé avec Chupin qui tient le frac Angoulême, là. Chupin disait, mais il faut faire piquer Mathieu, c'est-à-dire qu'il faut le faire disparaître de la circulation, c'est-à-dire que dans une espèce de négationnisme de fin de soirée, mais il y a un endroit où Moi, je préfère Mathieu. Dans ce cas-là, si on y va dans ce genre de logique, je préfère Mathieu que Pierre Huyghe. Parce que je trouve qu'au niveau de l'imaginaire de l'artiste, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus tordu, beaucoup moins admissible. Et peut-être qu'il a beaucoup moins de qualité humaine. Et ça fait de l'art, pourtant. Ça fait de l'art et ça fait fabriquer des drôles d'objets qui sont pas des produits. Et ça, c'est peut-être consternant, mais moi, c'est là où les choses m'intéressent énormément et qu'elles me laissent vraiment réfléchir.
Et on va écouter un petit peu de musique et on reviendra sur le choix des œuvres une fois de plus. C'est parti. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was not me, I would hate me too, just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. It's all made worse by a simple scheme. You're slipping away from me. Can't decide sometimes if it's worth the point. The point is the struggle and security. Hopefully you make no mistake. If you learn from what you've got to take, good or bad, it's all gonna add up in the end. But you can never win.
Voilà, c'était une petite pause musicale parce qu'on en avait un peu besoin. Alors du coup, on reprend. Là, on vient juste d'entendre Fisher Spooner. Et c'est reparti, on va parler casting parce qu'on parle spectacle et on va toujours tenter de remettre les choses à leur place. Alors Cécile, casting ?
Oui, bien moi je me demandais comment les œuvres avaient été choisies. On va revenir à ça, à ce casting. Les œuvres ont été choisies pour être mises sur une scène.
Alors, oui, mais justement,
comment
c'est
le choix s'est opéré ?
Le choix s'est opéré parce que
selon quel critère ?
Justement, il n'y avait pas un critère, c'est-à-dire qu'on a interrogé
quel
à chaque
pluriel.
Fois. Oui, quel critère ? C'est-à-dire la question de la présence et de la représentation. Donc, si on regarde aussi bien, je ne sais pas, je prends au hasard là pour le coup, Carl André, puisque je le citais tout à l'heure, par rapport à une espèce de présence spatiale, hein, une espèce de dispositif qui à l'intérieur de l'espace peut dire quelque chose d'une espèce d'occupation du sol et de l'espace, mais qui pourtant est minimaliste, vraiment totalement réduit, hein, ou bien Gazurovski qui est une peinture dite hyper réaliste, c'est pas exactement le mot qui conviendrait pour Gazurovski, mais en tout cas qui est presque photographique et qui montre un couple vu de haut qui se touche les pieds et qui donc fait une espèce de posture assez incompréhensible lorsque le tableau est montré dans sa positionnement normal, c'est-à-dire sur le mur, puisqu'il faudrait en fait se le voir en plongée. Il interroge autrement la question de la représentation, à savoir la question je vais très vite, hein, mais pour ce tableau-là, par exemple, la question à la fois du réalisme photographique et même de la présence et de la lecture, même de la compréhension qu'on peut faire d'une image. Et le fait que cette image ne soit plus une image photographique, mais un tableau. Donc une sorte de déplacement. Ou bien lorsque l'on prend, Blancard, puisqu'on le citait tout à l'heure.
Voilà, les œuvres qui sont actuellement sur la
voilà,
scène.
Voilà, j'ai dit tout à l'heure aussi que c'était la question... Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, mais on en a parlé tout à l'heure à travers la touche Van Gogh et l'utilisation, puisque chez Lavier, pour en prendre cet exemple-là, donc Lavier joue la question de la peinture à travers un objet en trois dimensions, par exemple. Et donc, j'explique parce que à la radio c'est quand même difficile, mais lorsque l'on fait, par exemple, quand on peint un extincteur rouge en rouge avec la touche dite Van Gogh, on fait simultanément un objet, une sculpture et une peinture, puisqu'il s'agit de peinture sur un objet. Donc à chaque fois, c'est d'interroger la question de la représentation. Ce qu'on retrouve aussi chez Joseph Kossuth, puisque la pièce de Kossuth, c'est la définition de l'objet, l'objet et la photographie de l'objet. Donc vous voyez, il y a à chaque fois, mais ce sont, on n'a pris que 10, mais on aurait pu en prendre plus, c'est à chaque fois des objets qui interrogent à la fois l'objet, la chose et sa représentation, voilà. Mais comme je disais, il n'y a pas un critère parce qu'en fait, ils sont contradictoires, ces critères-là. Mais ça, si on simplifie, c'est ça.
Et donc, ce qu'on disait hors antenne, les œuvres, selon vous, réagissent toutes différemment à ce dispositif. Il est efficient de manière...
moi personnellement, j'en sais rien. Moi, je pense qu'elles fonctionnent toutes parce que le projet toutes. Par
exemple, je sais que vous aviez un peu peur que ça les ridiculise parfois.
Oui, par exemple, Ours l'outil. Parce que Ours l'outil, c'est une photographie donc qui véhicule un certain pathos, hein, on va dire. Et on s'est interrogé puisqu'on a mis des musiques aussi sur certaines œuvres. Et on s'interrogeait sur la nature de la musique pour pas qu'il y ait une espèce de tautologie justement entre ce pathos qui est véhiculé par l'image. Ce qui nous intéressait plutôt, c'était de nourrir l'œuvre de quelque chose d'extérieur avec la musique, mais qui ne vienne pas surjouer l'œuvre. Et si on avait mis Édith Piaf, par exemple, sur cette œuvre-là, on aurait eu droit à une espèce de presque de ridiculisation de l'œuvre en disant ouais, ben ça n'est que ça. Or, c'est une pièce. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de l'outil qui tout d'un coup avait une force. Mais qui était pas du tout ridicule, mais au contraire plutôt émouvante. Alors je reviens là-dessus sur les termes comme ça, émouvante, sensible et tout, parce que c'est des termes qu'on revendique.
Une dramatisation du coup.
Oui, mais c'est des choses qu'on revendique assez. C'est des choses qu'on revendique assez.
Oui, la passion triste.
Oui, sans doute. Parce que cette idée de passion triste, mais c'est vrai que cette histoire de ridicule dès le départ, quand on a eu l'idée de la scène, quand on l'a fabriquée, il y avait cette espèce de suspense un peu irrévérencieux où on se disait peut-être qu'il va y avoir une mise à plat des œuvres. C'est-à-dire c'est un truc critique un peu unilatéral. Et à notre grand étonnement, on s'est rendu compte qu'on les aimait vraiment pas mal, toutes ces œuvres en fait. Et au-delà de les manipuler, alors le mot est peut-être un peu fort, mais c'était dans une espèce d'état de révélation. Très touchant, très 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 touchant. Et c'est là où ça touche aussi à la passion triste, c'est-à-dire que le caractère paradoxal de la situation fait que la situation peut paraître absolument ridicule de voir une peinture simplement posée comme ça n'importe comment sur une scène avec une poutre factice et puis un espèce de look, on dirait une fausse hacienda dans une opérette mexicaine, mais les œuvres prennent le dessus.
Elles prennent le dessus, aidées par ailleurs, en plus du dispositif, donc Arnaud Labelle-Rouge le disait, par une musique que vous avez choisie pour certaines d'entre elles, qui les accompagne et qui porte d'une certaine manière l'œuvre en fonction du choix, et un éclairage. Puisqu'il y a vous braquez un projecteur
non,
sur l'œuvre, en tout cas je me souviens pour Gazurowski.
On rajoute peut-être quelque chose où on dira ah, mais non, c'est pas la peine, les œuvres n'ont pas besoin de ça, elles parlent déjà d'elles-mêmes, elles ont une autonomie à travers le cosmos. Et oui, c'est vrai, mais nous le problème c'est que c'est pas des commissaires, on n'est pas des critiques d'art, on est des artistes. Et on travaille aussi avec les œuvres, on travaille aussi avec l'histoire, et on travaille avec des références, des repères, des connotations, des salles réflexes, et qui sont eux-mêmes bordés de, qui sont bordés bah, d'un, d'une, du, d'une espèce de sale amour, quoi, je dirais. Et ça raconte une vraie histoire de regard, parce que. Peut-être que la manière dont on travaille, et même si on n'a pas tous nos violons accordés de la même manière, y a peut-être une drôle de dynamique qui parle du rapport à l'art, de la lecture à l'art, du rapport à l'inspiration, et qui touche en effet toute une espèce de zone sentimentale qu'autant appelleront galvaudée ou bien larmoyante ou bien mais qui est pleine de ressorts et presque un peu humain quoi je dirais.
Hervé, vous aviez l'air de vouloir rajouter quelque chose, non?
Non, sur le dispositif lui-même, je crois qu'il est intéressant dans le sens où on oblige, ou du moins on demande, toujours sur la question du spectateur, hein, qui est toujours présente là, on lui demande de rester un peu, c'est-à-dire comme il viendrait dans une sorte de chapelle, quelque part, on peut prendre cette image un peu religieuse, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on lui demande de se poser devant quelque chose et d'y rester 5 minutes s'il veut en avoir s'il veut en avoir quelque chose quoi. Si après il peut s'arrêter au poteau qui barre la scène effectivement, sourire mollement et puis tourner les talons, ça c'est clair, et on lui pose cette proposition là aussi qui est là, bon.
Oui, et puis alors je voudrais revenir sur quelque chose que disait Xavier aussi tout à l'heure sur à la fois la référence, les connexions implicites que nous voyons entre les choses qui sont pas forcément explicites, mais que nous tout d'un coup on peut se dire mais ça c'est un petit peu comme telle ou telle chose, et en réalité on le dit ou on le montre. Si on prend Georges Mathieu, on a dit tout à l'heure, extrêmement lisible dans la modernité par rapport à l'abstraction lyrique française, même européenne, par rapport à l'américaine, etc. Or, qu'est-ce qu'on a mis dessus, nous, comme musique, puisqu'on a mis une petite musique, on a mis un morceau d'Elvis Presley interprété par un orchestre baroque. Ça ne veut pas rien dire du tout. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la lecture qu'on fait de Georges Mathieu. Mais la question du baroquisme, ou la question de la citation, ou la question de la référence culturelle, ou la question se retrouve comme ça, induite par des espèces de parasitage, parce que là, en l'occurrence, c'est pas une illustration, c'est plutôt un parasitage, mais qui montre comment ce que j'aime bien la formule, espèce de sale histoire, comme ça, de sale rapport qu'on a aux choses, c'est que nous, à partir du moment où on est aussi on pratique l'art, quelle que soit d'ailleurs la pratique, hein, fait qu'il y a des espèces de connexions internes qui sont pas forcément, pour en venir à la question du public, pas forcément compréhensibles, mais qui montrent que les choses sont sans doute plus riches et plus complexes que simplement Georges Mathieu, peintre de telle ou telle année. Parce que Georges Mathieu, il est aussi l'archétype de ce qu'on pourrait appeler le kitsch. Généralement, c'est pas ce qu'on dit. Mais il est l'archétype du kitsch, parce que le kitsch, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'une forme dans une reproduction démultipliée. Alors, Mathieu continuait à faire des tableaux, mais la reproduction démultipliée pour Mathieu, c'est d'être le timbre-poste, la pièce de monnaie, le etc., etc. Et représente donc un art auto-dévalué, qui s'auto-dévalue dans la mesure où il passe par une espèce de... Donc, quand on met la musique que l'on met, quelque part on injecte de cette pensée là sans pour autant l'illustrer ou sans, mais on montre que toutes les choses sont plus compliquées et assez indicibles en même temps, donc on le montre plutôt qu'on ne le dit en réalité.
Alors justement à propos de ce côté indicible de la question du public, parce que nous quand même on se place de ce côté-là, non mais pardonnez-moi d'insister, mais
moi aussi je me place de ce côté-là,
moi j'en fais partie, ça me préoccupe. Je crois que à la suite, enfin plus à la suite, mais en tout cas les choses à leur place représentent donc une exposition en forme de point de départ, peut-être avec effectivement la performance que vous aviez faite tous les deux, Xavier Boussiron et Arnaud Labelle-Rejou, pour l'inauguration du Frac Aquitaine. Un point de départ pour l'écriture d'un livre manifeste autour de la notion de passion triste, et qui éclairera peut-être les futurs
lecteurs. Qui rajoutera des couches.
Le problème, c'est qu'on a, en plus, on a une sorte de tempérament qui fait que
quand
il y a toujours ce fantasme d'éclairer absolument, de traduire absolument, de clarifier la situation. Tu vois, t'expliques, tu clarifies, tu débroussailles, tu purifies, et puis t'arrives à une... C'est, tu vois, comme s'il fallait arriver à une espèce de jus le plus clair possible, et que d'un coup d'œil, en fait, la chose paraisse absolument compréhensible en 2 minutes. Et je pense que le livre va pas du tout fonctionner comme ça, parce que le livre, ça va être encore une étape où, à mon avis, on va changer 5 fois d'avis, on va se contredire, on va...
Mais moi, je ne parle pas de médiation totale et absolue et de jus. Enfin, je parle de... On parle, car nous, la Belle Rouge, je parlais de clés. Je pense qu'en l'occurrence, certaines clés seront...
Elles ne seront pas énoncées telles quelles. Elles ne seront pas énoncées comme des clés. On donne les éléments, mais on les énonce pas comme des clés. Donner des éléments. Si par exemple, on n'est pas, on se place pas sur le plan du commentaire de l'expression passion triste, parce que on n'est pas les inventeurs de cette formule, puisqu'elle se trouve chez Spinoza, et que lorsqu'elle est énoncée philosophiquement, si j'ose dire, elle développe donc une pensée qui elle-même est analysée, reprise par Descartes, par d'autres, et ça c'est un travail de philosophe. Nous, on part à la fois de la formule qui nous paraît être juste par rapport à ce que l'on pratique, comme le regard qu'on a sur l'art, et... on va donner tous les éléments ou un maximum d'éléments qui nous paraissent entrer dans cette espèce de territoire de la passion triste, tout en disant en effet que c'est là où il y a un manifeste, tout en disant que ça nous paraît, et c'est là où il y a quelque chose de volontaire, on va dire, ça nous paraît certainement aussi porteur que tout ce qu'on voudrait nous montrer de entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, de positif. Mais on va donner que des preuves. À travers des documents, à travers des images, à travers les œuvres qu'on produit nous-mêmes. Moi, je vais faire bientôt une performance, je vais la sous-titrer quelque part avec le mot passion triste, parce qu'en effet, ça sera à mettre au dossier de la passion triste. Mais il n'y aura pas les commentaires qui va justifier quoi que ce soit par rapport à ce qu'on a fait là ou par rapport à des projets futurs.
Alors, quand est-ce qu'on pourra le lire, ce manifeste?
Dans l'année 2006, peut-être.
2006, oui. Parce que là... On a déjà pas mal de choses à faire avec la fin de cet été. Et puis, il y a d'autres choses qui sont prévues également. Et donc, avec le FRAC, en tout cas, ça se fera en 2006, ce livre.
D'accord. Cyril ?
Est-ce que le salut final annoncé dans le programme, c'est-à-dire de ces œuvres, toutes les œuvres réunies sur le plateau de la Seine, existera ?
Oui, il existera. Donc, ce sera au moment de la soirée, c'est-à-dire... sans doute la semaine qui va précéder la soirée, j'ai plus exactement le calendrier en tête, mais à partir du 14, je crois, jusqu'au 21, toutes les œuvres seront sur la scène.
Et donc le 14, toutes les œuvres seront sur la scène, et ensuite le 17, il y aura une soirée. Vous pouvez nous annoncer à nouveau
ce qui se passera. Oui, parce que donc le 17, ça va être une soirée.
Vous allez intervenir, vous, Xavier Bousseron, ce soir-là?
Mais plein de gens vont intervenir apparemment.
Il y a pas mal de gens qui vont intervenir.
Et voir nos labels rouges.
Il y aura sans doute... Non, on sera là, nous, mais bien sûr. Mais il y a aussi des...
Jacques Lizen, voilà, Charles Penquin, Sophie Thérèse, Stéphane Roger et bien d'autres.
Penquin qui est poète. Il y aura Sophie Pérez qui est metteuse en scène et auteur de théâtre, en quelque sorte... Avec Stéphane Roger, Sophie Lenoir, avec lesquels elle travaille et qui font une drôle de vision justement du théâtre et de la représentation théâtrale. Il y aura aussi Quintro qui nous fera une performance qui te tiendra particulièrement à cœur, ce qui nous parlera des femmes. Et
tout ça fait partie de la communauté de pensée des choses à leur place.
C'est ce que je cherchais, c'est pas des adeptes, ce serait une espèce de cercle, on dira. Et je suis pas sûr que tous les participants aient le même penchant pour la passion triste. En tout cas, nous on considère qu'il y a une correspondance évidente. Et de toute façon, on n'est pas forcé de partager le même avis sur ce qu'on est, quoi.
Alors sur ce, on va conclure. Quelle heure est-il ? Il est exactement 21h17. On a débordé de 17 minutes, mais il était important de remettre les choses à leur place. Donc, Olivier Blancart et Bertrand Lavier sont présentés jusqu'au 19 août au Carré Bonnat. Et après, ce sera Joseph Cossu, Jacques Lizen et Philippe Ramette du 20 au 29 août. Alors, je remercie nos invités, Hervé Legros, Xavier Boussiron et Arnaud Labelle-Rojoux. On se retrouve, toute l'équipe de Radio Frac et nos internautes et notre public. On se retrouve, on se donne rendez-vous le 31 août à 20h. pour une prochaine bonne aventure. On vous souhaite une excellente soirée. On tient à remercier le Grand Hôtel. Et à dans 15 jours. Au revoir. They never said your name, but I...